Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Alors aujourd'hui, attention, on a du monde dans le studio. Alors nous avons Tanguy Lemoyle, responsable antenne Pays Basque Landes au Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine. Frédéric Casaban, chargé de mission scientifique et technique au Centre permanent d'initiative pour l'environnement. On utilisera les acronymes après. Hein. Seignan Yadour et Yves Gilly, conservateur de la réserve naturelle nationale de Socats-la-Brède. Ça en fait pas du bon monde tout ça. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors on va parler un petit peu de vos structures respectives hein, quand même. Et puis elles convergent sur un point d'intérêt que nos auditeurs connaissent bien, la réserve naturelle de Terre 6, les Bains. Hein. Donc on va parler de tout ça. On va passer une petite heure ensemble. On va découvrir. Il y a eu des changements. Hein, ça a été aménagé. Ça vaut le coup de. On va donner envie aux auditeurs, aux auditrices d'y aller faire un tour. Parce que tant qu'à faire, c'est là pour ça. On va d'abord écouter le flash info national et international. Et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti. Donc on va découvrir un petit peu qui sont nos invités, puis qui sont les structures qu'ils représentent. Hein, parce que, comme je disais, on a trois entités dans le studio aujourd'hui. On va commencer. Qui c'est qui se porte volontaire? Et allons-y.
Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Tanguy Lemoyle. Je suis salarié du Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine. Donc il nous a été demandé de faire un petit portrait rapidement de notre parcours. Donc moi, je suis breton. Je suis arrivé dans le secteur il y a une grosse vingtaine d'années. Ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels. Et en fait, j'avais découvert le Sud-Ouest et son patrimoine naturel à travers des stages de fin d'études, puisque j'ai fait des études en écologie. On n'avait pas forcément des masses à l'époque, la fin des années 90. Et j'ai fait un stage de fin d'études au Seine, sur les zones humides des montagnes du Pays Basque. Et puis ensuite, je suis allé travailler dans les Pyrénées centrales, au parc des Pyrénées. Mmh. Et revenu ensuite en 2006 au Conservatoire d'Espaces Naturels, donc là où il s'agissait de mettre en place de la gestion et de la préservation de sites. Et là, depuis une quinzaine d'années, je suis plutôt coordinateur de l'équipe. On a une équipe de 7 là à l'antenne Pays Basque et Landes du Seine. Mmh. Et donc on est basé à Urte et on a aussi des locaux à Saint-Paul-les-Dax. Et l'objectif de l'association, donc les missions des Seines, on appartient à un réseau. En fait, il y a un Seine désormais dans chaque région, même en Bretagne depuis récemment. Mmh. Et l'objectif des conservatoires, c'est autour de la connaissance de la biodiversité, c'est de préserver, de conserver des espaces naturels remarquables. Oui. Et donc on a tous les mêmes missions qui sont connaître, protéger, gérer, valoriser le patrimoine naturel et accompagner les politiques publiques en faveur de la biodiversité.
C'est quel type de structure? C'est l'émanation de l'État? C'est associatif? C'est hybride?
Alors c'est associatif. Oui. Et donc du coup, nos chefs, si on veut, notre gouvernement interne, ce sont des bénévoles, mmh. donc des adhérents. Et à ce titre-là, évidemment, on a pour objectif aussi de mobiliser la société civile. Donc n'hésitez pas à adhérer au conservatoire, puisqu'on a besoin à la fois d'une base d'adhérents et puis aussi de dirigeants. Donc n'hésitez pas à rejoindre les troupes. Et donc une association avec un conseil scientifique aussi qui nous épaule sur la mise en place de nos actions, une équipe aujourd'hui de 140 salariés. Et tous nos projets en fait font l'objet de recherches de financement et d'appui de la part de partenaires nombreux, notamment à l'échelle régionale, la région, l'agence de l'eau, les différents départements, les communes, l'Europe.
Ouais, d'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité qui se porte volontaire. Je crois que c'est peut-être Yves.
Oui, bonjour. Yves Gilly. Donc moi, je suis conservateur d'une réserve naturelle qui est au sud de Bordeaux, donc en Gascogne, mais plutôt au nord. Donc sur les communes de Socats et Labrède. Donc Labrède, on est chez le philosophe Montesquieu. Mmh. Donc cette réserve a été créée en 1982 et en fait ça a été la première créée en France pour un fondement de patrimoine géologique, c'est-à-dire le sous-sol avec les roches et les fossiles qu'il renferme. Donc elle est gérée par une association, une petite association qui s'est montée pour ça en 1980. On est 8 salariés. Alors on intervient essentiellement sur cette réserve naturelle, mais après avec des missions régionales liées au patrimoine géologique, sous forme d'études ou d'inventaires, et notamment on est intervenu sur l'inventaire du patrimoine géologique du département des Landes il y a quelques années, et également depuis plus d'une dizaine d'années sur la réserve naturelle de Terre 6.
Oui, alors j'ai vu les photos, j'ai vu pas mal de fossiles, de jolies couches aussi, et d'ailleurs une petite promenade au bord de l'eau, là, ça faisait un petit peu envie en préparant de ce coin frais qui doit être un peu plus chaud là, mais qui doit être sympa quand même. Vous êtes plutôt géologue de formation ?
Moi, je suis plutôt naturaliste généraliste.
D'accord.
Je me suis spécialisé dans la géologie de notre secteur, hein, c'est-à-dire le tertiaire et plutôt les fossiles.
D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et on va finir par Frédéric.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Frédéric Casaban. Alors pour faire un petit point sur mon parcours, je suis diplômé de l'université. J'avais à l'époque un DESS, l'équivalent d'un master en écologie aujourd'hui. J'ai travaillé quelques années en tant que prof de sciences de la vie et de la terre dans différents collèges, notamment du Béarn, d'où je suis originaire. Et depuis 2005, j'ai intégré l'équipe du Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement Seignanx-et-Adour. Mmh. Alors en abrégé, ça s'appelle CPIE Seignanx-et-Adour.
Voilà.
C'est un label national en fait, hein, pour des associations qui œuvrent sur les thématiques du développement durable, mais plus largement, et de la transition écologique aujourd'hui, de la biodiversité, sur un territoire donné. Donc nous, on travaille essentiellement dans la partie sud du département des Landes, avec l'ensemble des acteurs qui travaillent. Et des structures, donc ça peut être les scolaires, on fait beaucoup de sensibilisation à l'environnement, on fait de la formation aussi pour les adultes, on va aussi travailler avec les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs, les pêcheurs, pour essayer de concilier les visées de chacun et essayer de faire en sorte que la dimension de l'environnement soit aussi intégrée à l'activité de chacun. On travaille aussi beaucoup avec les collectivités territoriales, la communauté des communes du Seignanx, qui est notre ancrage initial, en fait, avec lesquels on travaille toujours sur les documents d'urbanisme, sur les dimensions environnementales.
Oui.
Et puis voilà, on a aussi, on travaille également avec des entreprises privées, que ça peut être Vinci Autoroute, ça peut être des inventaires sur des golfs aussi. Enfin, on a vraiment une activité assez diversifiée. Et puis aussi sur le Seignanx, on travaille beaucoup avec la communauté des communes sur la stratégie agricole pour essayer de développer, de mettre en place en tout cas de jeunes agriculteurs sur des terres agricoles, sur des nouvelles cultures, du maraîchage, etc. Donc des apports assez diversifiés sur le territoire et également la valorisation de la réserve naturelle de Terre 6 dont on va reparler tout à l'heure.
C'est là que convergent vos compétences, vos responsabilités, hein. Vous avez des missions globalement qui sont un petit peu voisines quand même, hein. Vous êtes collègues, on va dire, hein. Et on va parler de cette réserve de Terre 6. Bon, il y a pas mal de gens qui doivent connaître quand même dans le coin, plus ou moins, mais c'est vrai que récemment, elle a été... alors, je sais pas, ça date depuis combien de temps, là, la création du parcours, etc.
Alors, si on parle du classement de la réserve naturelle, c'est 2015, le classement. Mmh. Et le sentier d'interprétation, qui est un projet d'aménagement, il a été finalisé en 2024, mais... on l'avait déjà en tête depuis plusieurs années, et puis aidé avec les collectivités territoriales, la commune de Terre 6 et la communauté d'agglomération du Grand Axe également, avec des financements en région, département, etc.
D'accord. Ouais. Alors comment vous êtes retrouvés tous les trois, vos trois structures, à avoir en responsabilité cet endroit, vu que vous êtes un petit peu étalés sur le territoire? Il y a même des gens qui vont très loin du nord, hein, qui sont venus nous rejoindre. comment ça s'est articulé, cette responsabilité?
Historiquement, pour l'association pour la réserve naturelle de Socats-Labrenne, on avait dans nos adhérents un géologue du secteur qui avait déjà travaillé dessus, fait une partie de sa carrière en étudiant le site et en faisant des publications qui ont permis ce qui est une renommée. Donc du coup, depuis, nous cherchions en 97, on a essayé de parler de Terre 6. Et puis un jour, la question d'en faire un site protégé s'est posée. Alors nous, on est quand même assez éloignés, et donc on a réfléchi à une forme d'étude de faisabilité, où on a été chercher d'associations plus plus à même de travailler à une échelle régionale ou plus proche du territoire.
Pas besoin de créer une nouvelle structure, vous aviez déjà les compétences, elles étaient là, les gens, etc. Donc on a utilisé l'existant, on va dire, et donc on a mutualisé les compétences, hein, je pense qu'on doit pouvoir dire ça. Après, c'est vrai que c'est un endroit particulier, on va en parler tout à l'heure, mais ça fait converger plusieurs choses, un paysage particulier, une géologie aussi, qui n'est pas souvent visible dans les Landes. Hein, on en parlera ça aussi, c'est pas un pays de cailloux, hein, les Landes pas trop quand même. Et donc c'est un endroit vraiment particulier. Et il y a aussi une partie des espèces animales et végétales qui sont présentes là, qui sont précieuses à conserver. On va faire une première petite pause et on va discuter de tout ça ensuite. Et c'est reparti, donc on va faire un petit retour en arrière dans le temps, très léger, hein, quelques millions d'années, parce que voilà, qui dit roche dit oula, on peut revenir loin dans le temps, donc cet endroit a vraiment une histoire, on peut le dire, qui remonte à très longtemps et jusqu'à nos jours. On va essayer de faire, on est très ambitieux aujourd'hui, on va essayer de faire un petit tour du propriétaire.
Alors du coup, effectivement, l'histoire commence il y a très longtemps. Pour l'histoire géologique de Terre 6, les géologues aiment bien raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Donc faut qu'on s'imagine des roches enfouies sous nos pieds qui racontent une histoire. Et donc, il y a 250 millions d'années, on est dans un temps géologique qu'on appelle le Trias, au début du secondaire, où on a des grandes plaines très sèches, avec des étendues d'eau très salées, et avec des dépôts de sel qui se forment, et qui se forment en très très grandes quantités, qui vont s'enfouir progressivement. Donc ça, c'est le premier temps de l'histoire géologique de Terre 6. Le deuxième temps, c'est l'arrivée de l'océan Atlantique, donc là on est au Crétacé, oui. Et donc on a une mer chaude, assez profonde, et donc dans laquelle vont se développer les animaux de la fin du secondaire, c'est-à-dire des ammonites, tout un tas de coquillages, du corail, des éponges, et des gros animaux qui pouvaient aussi flotter ou nager là-dedans. Donc on a des restes de poissons sous forme de quelques écailles, et puis des animaux un peu plus gros, puisqu'il y a un dinosaure marin qui a été trouvé, un mosasaure, et un titanosaure sous forme de vertèbre, donc probablement un animal mort qui aurait été charrié et qui aurait fini au fond de l'eau.
Oui. D'accord, donc ça, cette époque, c'est vrai, c'est la fameuse époque où les Landes étaient, en tout cas une grande partie, étaient sous la mer.
Voilà, c'est ça. Et donc, cette période dure plusieurs dizaines de millions d'années. Et les géologues, en regardant ce qu'il y a comme fossile à l'intérieur, vont découper ces tranches de temps en étages géologiques. Et la particularité pour ce qu'on a à Terre 6, c'est qu'on a trois étages qui sont bien représentés. Il y a un étage qui s'appelle le Campanien, qui a été décrit par les scientifiques au 19e en Charente, dans la Champagne charentaise. On a un autre étage qui est un peu plus célèbre, qui s'appelle le Maastrichtien, qui est le tout dernier étage de la fin du secondaire. Et on a l'étage danien, qui est le premier du tertiaire. Et donc ça veut dire que quelque part à Terre 6, sous la forêt, on a a priori les traces du passage entre le secondaire et le tertiaire. Oui. Donc la fameuse crise qui a connu, entre autres, la disparition des dinosaures avec 80% des espèces marines.
Oui, ce fameux causé a priori par ce fameux astéroïde qui a laissé une marque visible encore dans le golfe. Alors je ne sais plus s'il faut l'appeler Mexique ou Américain. Je pense que vous n'avez pas dû changer la dénomination de votre côté.
Non, c'est ça. Mais effectivement, on sait où est tombé cet astéroïde. Donc, sachant que c'est quelque chose qui a... un événement qui a un peu terminé d'achever pratiquement la vie sur Terre à cette époque-là, parce qu'il y avait quand même des disparitions qui étaient déjà entamées avant.
Oui. Alors, ce qui est remarquable dans cet endroit-là, quand on arrive vers la droite, on tourne la tête, on voit une sorte d'amphithéâtre, hein, on voit bien une exploitation, on va en parler de l'histoire de l'exploitation par l'homme de cet endroit. Et d'ailleurs, l'homme a été là à plusieurs étapes historiques. Les couches, comme vous disiez, hein, tout ça s'accumule, c'est bêtement horizontal, hein, petit à petit. Mais là, il y a quelque chose de particulier à cet endroit. C'est tout à coup, il y a une grande verticalisation, hein, un peu comme les livres, d'ailleurs, comme les pages d'un livre. D'ailleurs, c'est les pages d'un livre pour vous, quelque part.
Oui, c'est ça. Alors, l'événement un peu particulier qu'il y a, c'est les roches riches en sel. Sous l'effet de la poussée des Pyrénées au sud, en fait, comme elles sont un peu malléables, on les appelle plastiques, elles vont pouvoir remonter s'il y a des fractures du sous-sol et remonter vers la surface. Et donc c'est la particularité, c'est que sur les points hauts de Tersis, on a des argiles rouges, qu'on appelle des argiles salifères, qui viennent vraiment des profondeurs de la Terre. Oui. Et en remontant, elles ont poussé les couches de roches calcaires et elles les ont complètement redressées à la verticale.
Voilà, ouais. Alors, donc on appelle ça le diapirisme. Moi, je suis content, j'ai appris un nouveau mot. Alors, je le mets dans mon vocabulaire, dans mon stock. Oui, et donc ça a une conséquence secondaire non négligeable pour la région, c'est le thermalisme.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a donc des circulations d'eau qui vont pouvoir se retrouver à la surface, très chargées en éléments minéraux et qui peuvent avoir des vertus pour la santé.
Voilà.
Et donc, à Tersis, on a eu d'anciennes thermes et puis on en connaît plus près d'ici.
Alors, est-ce qu'il y a un lien avec Salis de Béarn ? Est-ce que c'est le même substrat ou est-ce que c'est un autre endroit éloigné ou c'est connecté ? C'est relativement éloigné, mais à l'échelle géologique.
C'est le même principe, en fait.
Oui, mais c'est pas connecté, c'est pas le même.
Non.
Encore. Très bien. Donc, c'est ce qui permet d'avoir de l'eau chaude avec du sel.
Voilà.
Entre guillemets. Voilà. Ça aurait pu être italien pour faire les pâtes, c'est impeccable. Et cette occupation aussi, ce site, on a parlé un petit peu de l'aspect géologique, l'homme y est depuis pas mal de temps aussi.
Alors effectivement, la présence humaine est attestée depuis des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, puisqu'on a retrouvé des gisements de silex taillés, qui ont été donc taillés par des hommes préhistoriques. Mmh. Alors on a des traces de l'époque où il devait y avoir l'homme de Néandertal, mais c'est surtout à partir de moins 40 000 ans, alors là on ne parle plus en millions d'années, vous avez vu, on parle en dizaines de milliers d'années,
oui.
À partir de 40 000 ans et jusqu'à à peu près 17 000 ans, où on va avoir Homo sapiens, donc c'est notre espèce qui était déjà présente sur ce promontoire qui est Tersis. Et alors il faut s'imaginer aussi le paysage qu'il pouvait y avoir autour. Il n'y avait pas d'arbres à l'époque, on n'était pas loin du maximum glaciaire, de la dernière glaciation.
Ah oui.
Donc c'était des grandes steppes au sud, sur la zone vallonnée, au pied des Pyrénées. Les Pyrénées, c'était des grands glaciers. Et au nord, on avait le bassin de Gascogne, les Landes de Gascogne, qui était en fait un désert de sable, enneigé l'hiver, battu par les vents en été, qui était probablement très peu, qui était très hostile.
Mmh.
Et donc, les hommes préhistoriques qui vivaient sur ce promontoire à Tersis avaient une zone surélevée et sur les steppes entre les Pyrénées et donc Tersis, vous aviez des grands troupeaux de rennes, de mammouths qui passaient. Et donc pourquoi Tersis également ? C'est parce que sur Tersis, on a des grands gisements de silex de très bonne qualité qui ont permis de tailler des armes pour des âmes de jet, notamment pour tuer les rennes. Et c'est certainement aussi le mammouth lors de certaines cérémonies rituelles. Les traces que l'on a pu retrouver sur Tersis, sur ces gisements lithiques, indiquent qu'on est sur un des plus grands ateliers de taille de silex du sud-ouest de la France.
Oui, c'est ça, oui.
Et un autre type de trace qui a été très intéressant à noter, c'est qu'on avait aussi, en fonction de la répartition des silex, on voyait qu'on avait par endroits des silex qui étaient taillés de façon
grossière.
Très grossière.
Ouais.
Et les archéologues qui ont travaillé sur ces gisements ont défini qu'en fait, c'était probablement des apprentis qui apprenaient à tailler le silex en regardant les professionnels, on dirait aujourd'hui.
Oui.
Et ils en ont déduit qu'on avait là devant nous l'une des premières traces d'une école de taille de silex, d'apprentissage.
C'est fascinant, ça.
Encadrée pour l'humanité, on va dire. Cette trace remonterait aux alentours de moins 20 000 ans. Donc ça, c'est une des hypothèses qui a été tirée par rapport à la thèse d'un archéologue qui est Aurélien Simonnier, qui a beaucoup travaillé sur les restes archéologiques de Tersis.
D'accord, ça c'est intéressant. C'est vrai qu'on a essayé toujours de se projeter un petit peu dans le passé, d'imaginer comment vivaient les gens, ce qu'ils faisaient. Donc c'est vrai que quand on va à Tersis, on voit de la roche essentiellement plutôt blanche, d'origine calcaire, et à fleurs par endroits, quelque chose d'un peu plus sombre, noir, un peu plus vitreux d'aspect. Et c'est du silex, on peut le voir encore, tout à fait. Et c'est le moment de faire notre deuxième pause. On va écouter un petit peu de musique, le Flash Info local, et on se retrouve ensuite. Et nous voilà de retour. Donc, on continue à parler de cet endroit particulier, cette carrière. Hein. Voilà, carrière de Terre 6, on peut le dire. Donc, on a parlé de l'habitation humaine, ancienne, de cette école de taillage de silex. Mais ça a été exploité par l'homme aussi dans une date plus récente.
Alors effectivement, à l'époque moderne, les carrières de Terre 6, comme son nom l'indique, ont été exploitées pour son calcaire, qui est en fait de bonne qualité pour faire du ciment, utilisé voilà, pour les routes, les constructions, etc. Donc il y a eu une industrie à partir de 1974, Calcia France, qui s'est installée sur le site. Autrefois, c'était une petite entreprise familiale de carriers locaux qui était présent à Terre 6. À partir de 1974 et jusqu'en 1992, il y a eu vraiment une activité intense industrielle où on a exploité le calcaire et qui a donné la physionomie du site que l'on retrouve encore aujourd'hui avec ses différents paliers, ses 5 paliers. L'activité a cessé en 1992. En 1997, suite aux découvertes géologiques qui ont eu lieu, on va en reparler tout à l'heure, la société rétrocède pour le franc symbolique à l'époque à la commune de Terre 6, le site des carrières, charge à elle en fait de les mettre en valeur, de les valoriser. Mmh. Et ça tombait bien parce que dans les années 2000, il y avait tout un projet de réaménagement en tout cas du thermalisme, il y avait des financements là-dessus. La commune de Terre 6 a restauré finalement ses thermes, etc., et en même temps, en parallèle, a essayé de mettre en place un projet de valorisation, donc a fait travailler un bureau d'études pour essayer d'aménager ses carrières. Donc, il y avait un très gros projet culturel à l'époque. Et malheureusement, en 2001, des études sur les eaux thermales de Terre 6 ont mis en évidence une bactérie, ce qui a fait fermer les thermes. Alors à la base, ça devait être pour quelques semaines, quelques mois. Mmh. Et puis les pertes économiques étaient tellement importantes que en fait, ces thermes n'ont jamais réouvert. Et tous les projets qui étaient liés à la commune, liés à ces thermes, dont le projet culturel sur Terre 6, a périclité. Oui. Et du coup, pendant plus d'une dizaine d'années, le site est resté, on va dire, livré à lui-même. Une petite association locale avait quand même été montée pour essayer de débrousser et d'entretenir le site. Mais c'est en 2010, là je vais passer la main à mon collègue, que les choses ont changé et que ça a pris une nouvelle dimension.
Oui.
En effet, à partir de 2010, du coup, ce site-là qui faisait notamment qui avait fait l'objet d'une rétrocession aussi au motif de la préservation du patrimoine géologique, en fait, il y a eu plusieurs échanges entre la commune, différents partenaires pour essayer de mettre en place des actions de préservation et de mise en valeur. Et c'était une époque, 2010, où l'État avait engagé une démarche de création, de mise en place d'aires protégées,
oui,
à l'échelle nationale. Et ils avaient identifié notamment le site de Terre 6 pour son patrimoine géologique exceptionnel. Et à ce titre-là, donc, en parallèle, on avait eu quelques discussions, échanges, nous, au conservatoire, avec aussi la réserve de Socats, avec la commune, pour trouver les bons outils adaptés à la gestion de ce site-là, qui est quand même assez particulier.
Oui.
Et du coup, la commune a saisi l'opportunité de cette démarche-là portée par l'État pour engager une étude de préfiguration pour savoir quel était le meilleur outil à mettre en place. Et donc, du coup, de 2011 à 2013, donc le conservatoire d'espace naturel, la réserve de Socats et le CPIE ont mis en place un diagnostic un peu complet en fait du site. Donc on a été compiler les informations déjà existantes et on a fait aussi beaucoup d'investigations de terrain qui notamment nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait beaucoup d'espèces animales et végétales qui étaient assez remarquables, oui, assez rares, qui n'avaient pas été identifiées jusque-là.
Mmh.
Et du coup, ça donnait lieu finalement à un projet qui pouvait concilier à la fois des enjeux écologiques, géologiques pardon, très forts, et également des enjeux liés à la protection de la nature qui était également très fort. Et du coup, petit à petit, c'est préfiguré la mise en place l'idée en tout cas que le meilleur outil, ce serait une réserve naturelle. Et puis l'implication du conseil régional a donné lieu à la mise en place finalement assez rapide, une fois que l'étude de préfiguration a été rendue, le conseil régional a statué sur la création de réserve naturelle. Mmh. Et donc du coup s'est engagé donc sur le long terme à apporter les moyens pour la préservation de ce site, à commencer par la création de la réserve naturelle, puis la désignation du gestionnaire. Et du coup, on a identifié au sein du groupe qui travaillait déjà sur l'étude de préfiguration des missions spécifiques, histoire qu'on valorise bien les complémentarités qu'il y avait au sein des trois associations, les complémentarités. Donc, pour schématiser, nous, au Conservatoire d'espaces naturels, on travaille plutôt sur le volet patrimoine naturel, gestion et puis coordination de la gestion globale du site. Les amis de la réserve de Socas travaillent sur le volet plus scientifique, géologie et puis valorisation aussi géologique auprès du grand public. Et puis les collègues du CPIE travaillent beaucoup plus sur l'ouverture au public, l'accueil du public, l'organisation de sorties.
Oui.
Et du coup, on a trouvé assez vite un rythme de croisière avec une vraie complémentarité parce que c'est une co-gestion à trois, c'est assez original. Au début, il y avait plusieurs partenaires qui se posaient des questions légitimes, hein, savoir est-ce que voilà, il y a une réelle complémentarité. Au final, très très rapidement, ça a été identifié. Et donc évidemment, cette étude de préfiguration, elle a aussi donné lieu à beaucoup de concertations, échanges avec beaucoup de partenaires, tous les usagers, les riverains, des enquêtes, des entretiens, pour avoir un projet qui soit le plus consensuel possible avec une réglementation, puisqu'en définitive, une réserve naturelle, c'est d'abord une réglementation et un périmètre. Donc pour avoir une réglementation qui soit adaptée aux besoins de préservation, mais aussi qui soit compréhensible et qui puisse être respectée par les gens qui fréquentent le site. Et donc depuis 2015, donc date de création de la réserve naturelle par le président du conseil régional, on a mis en place un plan de gestion, donc qui est le document cadre qui définit les actions à mettre en place, et ça fait l'objet d'un suivi régulier. Il y a un comité consultatif de gestion qui est composé de différents collèges, en fait, de tous les représentants concernés par le site, que ce soit les usagers, les collectivités, l'État, et qui suit année après année la bonne mise en œuvre du plan de gestion. Donc depuis maintenant une bonne dizaine d'années, là on est arrivé au terme des deux premiers plans de gestion. Et du coup, on a fait une évaluation de tout ça. Et tout au long de ces années de gestion, donc on a renforcé la mise en sécurité du site et puis les connaissances aussi sur ce site. Et comme c'est un site qui était autrefois dévolu à l'exploitation de calcaire, c'était finalement au moment de la cession à la commune de la roche nue un petit peu partout, un site assez pauvre en vie. Et comme la nature y a repris ses droits, chaque année, on découvre de nouvelles espèces ou on a un certain nombre de surprises, ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, le patrimoine naturel de ce site, il s'étoffe, en fait, d'année en année. On avait déjà, par exemple, une population d'amphibiens qui était assez remarquable. Les reptiles aussi, on a des populations assez intéressantes. Au niveau des papillons aussi, il y a pas mal de choses.
Et des orchidées aussi.
Des orchidées également, aussi, sur les milieux qui sont plus ouverts, sur les zones de pelouse et de prairies. On a mis en place aussi une gestion pastorale aussi du site, de façon à entretenir les milieux ouverts, prairies et pelouses. Donc, a donné lieu à des équipements, notamment de portails, tonneaux et tout ça. Et donc, année après année, le site évolue de cette façon-là. Et en parallèle, on a donc mis en place un projet d'aménagement sur lequel reviendra Frédéric tout à l'heure. Et voilà, peut-être sur le volet géologique, quelques actualités sur les découvertes.
Oui. Oui, alors en termes d'actualité, donc le site a vraiment une renommée internationale.
Oui, on ne s'en rend pas forcément compte. Hein.
C'est ça. Donc c'est quelque chose d'assez méconnu, mais en fait les géologues découpent l'histoire de la Terre en tranches de temps. Ils donnent des noms d'étages. Et le passage, le site où on décrit pour la première fois le passage d'un étage à un autre... sous forme de description des événements géologiques et des apparitions d'espèces ou de disparitions d'espèces, s'appelle ce qu'on appelle un point stratotypique mondial. Donc c'est quelque chose qui est en fait défini par le Parlement des géologues qui font de la stratigraphie, donc les spécialistes de la datation des roches. Et donc ce stratotype de limite, ce point stratotypique mondial, a été décrit en 2001. Depuis quelques années, il y a un groupe d'études de l'étage maastrichtien qui travaille pour préciser en fait des éléments scientifiques liés à cette limite. Donc on a des scientifiques polonais qui viennent en septembre pour étudier les inocérames, qui sont une famille particulière de gros bivalves, et on a d'autres géologues qui ont travaillé à faire des investigations, notamment à mieux caractériser comment comment le, on peut dater les roches à partir de la sédimentation qui est en fait régie par des variations de climat enregistrées dans les roches qui sont liées au cycle astronomique.
Oui. Alors, et puis c'est vrai que c'est un endroit particulier. La Terre a eu la courtoisie de bien vouloir faire une petite sortie pour qu'on puisse mettre ses couches à nu. Hein. Ça permet de voir. Hein. Donc sur le site, effectivement, bon, bien entendu, j'encourage les auditeurs à s'y rendre. Hein. Donc il y a un indicateur qui dit que voilà, à tel endroit, sur la façade qu'on a devant nous, on passe d'une ère à une autre. Hein.
Oui, c'est ça. Donc il y a une stèle avec une flèche qui matérialise ce point, ce stratotype de limite, et où par convention, les scientifiques ont décrit que c'était ici à Terre 6,
voilà.
Sur le palier 4 de la carrière sur la réserve naturelle, qu'on passait entre l'étage géologique campanien et l'étage géologique maastrichtien.
Ouais, bon, ça fait un endroit remarquable. Hein. C'est pour ça que vous avez décidé de le conserver, de le protéger, hein, puisque on a bien compris qu'on y trouve une curiosité géologique. On y trouve des espèces, flore et faune protégées, intéressantes. Et c'est un intérêt pédagogique. Hein, et il faut le faire vivre, ce lieu, hein, et puisqu'il est là, il fait partie de notre patrimoine, hein, on peut le dire. Donc c'est un peu, qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce qui peut s'y passer à cet endroit ?
Alors ça, c'est toute la valorisation du site. Hein, maintenant qu'on connaît les enjeux, qu'on a classé le site, qu'on l'a protégé, on va pouvoir le valoriser, en tout cas le faire découvrir au plus grand nombre. C'est pour ça que depuis 2016 maintenant, hein, on réalise avec les scolaires des animations, des ateliers pédagogiques. On va réaliser aussi des visites grand public. Donc on en a une tous les mois actuellement. Là on va s'arrêter pendant l'été, mais on va reprendre en automne. Alors ça se fait en partenariat avec l'Office intercommunal du tourisme et du thermalisme de Dax. Avec qui on a un partenariat tous les ans. On va également développer des expositions itinérantes. Hein, ça peut être sur l'archéologie, par exemple, hein, où on avait participé à une exposition en lien avec le service culturel du département des Landes qu'il avait créé. Et puis on va également, on a développé un projet d'aménagement, de valorisation, un sentier d'interprétation, vous en avez parlé tout à l'heure, où tout un chacun, et le site est ouvert à tous les publics, peut venir réaliser une petite ou une grande boucle, et vous allez comme ça apprendre le long de la boucle. Il y a des aménagements, des tables pupitres, des petits aménagements qui vont vous permettre de comprendre un petit peu tout ce dont on a parlé ce matin avec vous, de la géologie, de la préhistoire, la biodiversité actuelle également, vous faire découvrir les espèces de faune, de flore. Donc ça, c'est une petite boucle qui fait 2 km, qui est accessible alors sur des terrains un peu accidentés, mais que vous pouvez réaliser seul. Et puis, tout récemment, la dernière actualité, c'est qu'on a mis en place sur le site, avec toujours pareil l'aide de l'Office intercommunal du tourisme d'Ax, un parcours TerraVentura. Alors TerraVentura, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'abord une application sur un smartphone qui est totalement gratuite. C'est développé par la région Nouvelle-Aquitaine et ça permet de faire découvrir le patrimoine de la région, que ce soit sur les villes, les villages, les espaces naturels ou encore l'histoire régionale. Donc c'est totalement gratuit, il faut juste créer un compte et vous avez accès à des centaines de parcours dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, vous avez un nouveau parcours qui est tout neuf, hein, depuis 2 jours, qui s'appelle, le nom m'échappe, mais Recherche Strato-Atypique, en lien avec le stratotype dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, et qui va vous faire une petite aventure sur 1 heure ou 2 heures. Ça marche très bien avec les familles, les enfants. Voilà, c'est une chasse au trésor avec des énigmes et à la fin, un petit trésor à découvrir. Voilà, ça c'est une activité aussi qu'on a développée sur le site et qui fait partie un petit peu de tout le panel que l'on va essayer de mettre en œuvre pour valoriser ce site auprès de tous les publics. Alors bien sûr, on fait aussi des actions de formation auprès des enseignants aussi pour monter avec eux des projets pédagogiques sur des collèges, des lycées, également des écoles préparatoires.
Très bien. Voilà. On va faire une dernière pause, messieurs. Alors, on aurait pu y passer beaucoup de temps, ça c'est certain. On va se contenter de le temps qui nous reste. Peut-être qu'on reviendrait après tout. Hein. Allez, on se retrouve après ça. Et nous voilà de retour dans notre carrière. Donc on le disait, c'est vrai que c'est, on peut le visiter, etc. Mais c'est vrai que donc, avec le temps qu'il fait, c'est plutôt le matin parce que c'est un endroit quand même assez minéral. Bien que hein, quand on arrive à droite, si on prend tout en bas à droite, hein, il y a un petit peu d'eau, un petit peu de végétation. C'est sans doute là qu'on va trouver des espèces intéressantes qu'il faut bien entendu pas embêter parce que c'est un site protégé. Donc il faut pas non plus se servir en caillou, je fais exprès pour faire aller les géologues. En général, ils n'aiment pas quand on dit ça. Mais voilà, c'est pas la fête du fossile. Hein. C'est pas venu pour faire des souvenirs. Hein. C'est un endroit qui est protégé. On est d'accord. Hein.
Oui. Oui, tout à fait. C'est un des motifs hein, vraiment de création de la réserve naturelle. C'est avant tout protéger le patrimoine géologique et naturel. Donc la réglementation est rappelée sur les panneaux d'entrée du site. Il y a aussi des tournées de surveillance, hein, des maraudes régulières qui sont faites par l'ensemble des collègues. D'ailleurs, les gens qui sont sur site sont aussi disponibles pour répondre à des questions quand il y en a. Ils ne sont pas juste là pour surveiller et mener leurs actions, ils sont là aussi pour interagir avec tout le monde. Et effectivement, ça fait partie des missions importantes hein, de l'équipe de gestionnaires. Je salue aussi, parce qu'au sein du conservatoire, on est trois à travailler sur ce site, mes collègues Julien et Alionka qui travaillent aussi sur ce site. Et donc l'équipe de co-gestion, donc on est trois associations, on est donc salariés à travailler sur le site. On s'appuie évidemment sur les appuis de la mairie de Tercis-les-Bains, qui est propriétaire du site, sur les aides financières de la région Nouvelle-Aquitaine et du département des Landes aussi, puisque le site fait partie du réseau Nature 40. Il y a aussi l'agglomération du Grand Est qui a été d'une grande aide sur la mise en place de l'aménagement récent, là, qui a été déterminant aussi pour améliorer la capacité d'accueil sur le site. Et puis l'État via France Relance qui avait aidé aussi sur ce site-là. On aimerait aussi, nous, pouvoir s'appuyer davantage. Pourquoi pas? Je fais un appel aux bonnes volontés, à des bénévoles, hein, ou qui pourraient localement nous apporter aussi des éléments en restant bien sûr sur les sentiers accessibles et autorisés, qui peuvent nous faire part d'observation, tout un tas de choses, et même participer à des actions qu'on mène. Hein. Par exemple, au conservatoire, on propose de temps en temps des chantiers nature, par exemple pour lutter contre les espèces végétales envahissantes ou débroussaillage, choses comme ça. On essaye de mobiliser des bénévoles sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà, y a de quoi participer pour tout le monde.
Bien sûr. Alors, on va parler aussi on va enfoncer le clou d'or. Hein, alors, ils vont dire, de quoi parle-t-il, ce fameux clou d'or? J'ai découvert ça en y allant, d'ailleurs. Hein.
Alors, quand on parle de points stratotypiques mondiaux, en fait, ils sont symbolisés par les géologues, par un clou d'or, ou qui ressemble, en tout cas, et qui sont posés une fois que cette limite est définie et admise par les scientifiques. Donc là, on attend quelques nouvelles, et ça fait partie des projets de la réserve naturelle pour bientôt, d'avoir un réel clou d'or qui sera à 4 mètres de hauteur et inaccessible.
Oui.
Voilà, donc il y en a quelques-uns en France.
Il ne sera pas en or, il faut le redire, hein, parce qu'on connaît les gens. Non, ce n'est pas de l'or.
C'est ça, on ne sait jamais. Pour information, en France, il y a 8 endroits en métropole où il y a des stratotypes de limites qui ont été définis, donc avec certains qui ont leur clou d'or posé.
Oui, alors c'est vrai, alors clou d'or, alors il y a les équivalents à couleur argentée, hein, c'est ça. Donc le diamètre, c'est plutôt une petite assiette, hein, c'est pas un tout petit clou, hein. C'est la forme d'un clou de tapissier un peu, on va dire, mais du diamètre d'une assiette, hein, c'est ça en gros.
Ouais, c'est ça. Après, je pense pas qu'il y ait une norme intégrale.
Ah, je sais pas, il y a pas la norme du clou d'or international. Ouais, mais c'est vrai. Alors moi, pour avoir visité il y a quelques temps, et puis récemment, j'ai vu les apports qui ont été faits, hein, par rapport maintenant. C'est vrai que on est passé de, entre guillemets, un endroit qui était pas à l'abandon, enfin plus ou moins, enfin qui était là, accessible, une ancienne carrière entre guillemets à visiter. Hein. On voit bien, quand on arrive, on comprend bien qu'on a affaire à du patrimoine, notre patrimoine. Hein. C'est pour ça que c'est protégé, d'ailleurs. C'est intéressant, vraiment très intéressant comme endroit.
Ce qui était un peu le paradoxe du site, c'est que quand il était donné à la mairie l'a interdit au public, puisque c'était une ancienne carrière et que c'était dangereux.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Que la réserve naturelle a permis de le réouvrir au public avec une réglementation.
Et
notamment dans nos missions, il y a eu l'idée de sécuriser un parcours pour que les gens puissent se promener sans risquer. Voilà. Il y a des falaises assez hautes, il y avait un risque de pierre, il y avait des blocs en suspens.
Oui.
Donc tout ça a été traité. Mais effectivement, c'est un peu paradoxal, et après on y fait aussi attention pour les touristes, hein, mais on est en bord d'Adour, il y a du marnage, Il y a des marées, on peut se faire piéger, voilà. Et donc on sensibilise aussi à ça, même si pour effectivement les gens du coin, ça fait un peu partie du réflexe. Mais
voilà.
Comme l'idée c'est que ce soit ouvert au plus grand nombre, il faut aussi qu'on raconte cette histoire-là.
Mmh. Oui.
Oui, juste peut-être pour terminer, voilà, c'est vraiment un site aujourd'hui qui fait partie du territoire du Grand Dax, à visiter, aménager. Voilà, on remercie encore la commune de Tercis aussi qui a porté ce projet d'aménagement du site en lien avec l'agglo du Grand Dax. Et puis voilà, pour dire que voilà, on poursuit nos actions de conservation, d'entretien, de gestion et puis de valorisation du territoire. Voilà, les prochaines sorties grand public seront en septembre. N'hésitez pas à vous inscrire auprès de l'Office de tourisme qui vous renverront vers les animateurs du CPIE. Voilà, et puis tout au long des prochains mois d'automne, on a d'autres animations aussi à proposer. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la réserve naturelle régionale des anciennes carrières de Tercis.
Très bien. Alors moi, je tenais à remercier Frédéric, parce que c'est lui que j'avais contacté, parce que c'est un endroit que je connaissais. Et de toute évidence, voilà, beaucoup de gens dans l'agglomération doivent le connaître, mais pas au niveau de ce que c'est vraiment, en fait. Hein. Donc ça a permis de... voilà, grâce à Frédéric, on a eu trois intervenants en tout, qui on a vraiment des intervenants de qualité. Ça nous a permis quand même vraiment d'aborder tous les aspects de cet endroit, que ce soit historique, technique et biologique. Bon, c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup, messieurs, de vous être rendus disponibles pour ce rendez-vous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.